Chapitre 2 L'aventure de Crinquebille.
Jérôme Crinquebille, marchand des quatre saisons, allait par la ville, poussant sa petite voiture et criant « Des choux, des navets, des carottes !» Et quand il avait des poireaux, il criait « Bottes d'asperges !» parce que les poireaux sont les asperges du pauvre. Or, le 20 octobre, à l'heure de midi, comme il descendait la rue Montmartre, Madame Bayard, la cordonnière à l'ange gardien, sortit de sa boutique et s'approcha de la voiture légumière. Soulevant dédaigneusement une botte de poireaux, « Ils ne sont guère beaux, poireaux. Combien la botte ? 15 sous, la bourgeoise. Y a pas meilleur. 15 sous ? 3 mauvais poireaux ? Et elle rejeta la botte dans la charrette avec un geste de dégoût. C'est alors que l'agent 64 survint et dit à Crinquebille « Circulez !» Crinquebille, depuis 50 ans, circulait du matin au soir. Un tel ordre lui sembla légitime et conforme à la nature des choses. Tout disposé à y obéir, il pressa la bourgeoise de prendre ce qui était à sa convenance. « Faut encore que je choisisse la marchandise !» répondit aigrement la cordonnière. Et elle tâta de nouveau toutes les bottes de poireaux, puis elle garda celle qui lui parut la plus belle, et elle la tint contre son sein comme les saintes dans les tableaux d'église pressent sur leur poitrine la palme triomphale. « Je vais vous donner 14 sous, c'est bien assez, et encore il faut que j'aille les chercher dans la boutique parce que je ne les ai pas sur moi !» Et tenant ses poireaux embrassés, elle rentra dans la cordonnerie où une cliente portant un enfant l'avait précédée. À ce moment, l'agent 64 dit pour la deuxième fois à Crinquebille « Circulez !»«
J'attends mon argent !» répondit Crinquebille.
« Je ne vous dis pas d'attendre votre argent, je vous dis de circuler !» reprit l'agent avec fermeté. Cependant, la cordonnière, dans sa boutique, essayait des souliers bleus à un enfant de 18 mois, dont la mère était pressée, et les têtes vertes des poireaux reposaient sur le comptoir. Depuis un demi-siècle qu'il poussait sa voiture dans les rues, Crinquebille avait appris à obéir aux représentants de l'autorité. Mais il se trouvait cette fois dans une situation particulière, entre un devoir et un droit. Il n'avait pas l'esprit juridique, il ne comprit pas que la jouissance d'un droit individuel ne le dispensait pas d'accomplir un devoir social. Il considéra trop son droit, qui était de recevoir 14 sous, et il ne s'attacha pas assez à son devoir, qui était de pousser sa voiture et d'aller toujours plus avant et toujours plus avant. Pour la troisième fois, l'agent 64, tranquille et sans colère, lui donna l'ordre de circuler. Contrairement à la coutume du brigadier Montauciel qui menace sans cesse et ne sévit jamais, l'agent 64 est sobre d'avertissement et prompt à verbaliser. Tel est son caractère. Bien qu'un peu sournois, c'est un excellent serviteur et un loyal soldat. Le courage d'un lion et la douceur d'un enfant, il ne connaît que sa consigne. « Vous n'entendez donc pas quand je vous dis de circuler ?» Crinquebille avait de rester en place une raison trop considérable à ses yeux pour qu'il ne la crût pas suffisante. Il l'exposa simplement et sans art. « Non, 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 puisque je vous dis que j'attends mon argent !» L'agent 64 se contenta de répondre « Voulez-vous que je vous foute une contravention ? Si vous le voulez, vous n'avez qu'à le dire !» En entendant ces paroles, Crinquebille haussa lentement les épaules et coula sur l'argent un regard douloureux qu'il éleva ensuite vers le ciel, et ce regard disait « Que Dieu me voie, suis-je un contenteur des lois ? Est-ce que je me ris des décrets et des ordonnances qui régissent mon état ambulatoire ?» À 5 heures du matin, j'étais sur le carreau des Halles. Depuis 7 heures, je me brûle les mains à mes brancards en criant « Des choux, des navets, des carottes !» J'ai 60 ans sonnés, je suis là. Et vous me demandez si je lève le drapeau noir de la révolte. Vous moquez, votre raillerie est cruelle. Soit que l'expression de ce regard lui eût échappé,
soit qu'il n'y trouvât pas une excuse à la désobéissance, l'agent demanda d'une voix brève et rude si c'était compris.
Or, en ce moment précis, l'embarras des voitures était extrême dans la rue Montmartre. Les fiacres, les haquets, les tapissières, les omnibus, les camions, pressés les uns contre les autres, semblaient indissolublement joints et assemblés, et sur leur immobilité frémissante s'élevaient des jurons et des cris. Les cochers de fiacre échangeaient de loin et lentement avec les garçons bouchers des injures héroïques, et les conducteurs d'omnibus, considérant Crinquebille comme la cause de l'embarras, l'appelaient « sale poireau ». Cependant, sur le trottoir, des curieux se pressaient, attentifs à la querelle, et l'agent, se voyant observé, ne songea plus qu'à faire montre de son autorité. « C'est bon, » dit-il. Et il tira de sa poche un calepin crasseux et un crayon très court. Crinquebille suivait son idée et obéissait à une force intérieure. D'ailleurs, il lui était impossible maintenant d'avancer ou de reculer. La roue de sa charrette était malheureusement prise dans la roue d'une voiture de laitier. Il s'écria, en s'arrachant les cheveux sous sa casquette, « Mais puisque je vous dis que j'attends mon argent, c'est-il pas malheureux, misère de misère, bon sang de bon sang ?» Par ces propos, qui pourtant exprimaient moins la révolte que le désespoir, l'agent 64 se crut insulté. Et comme pour lui, toute insulte revêtait nécessairement la forme traditionnelle, régulière, consacrée, rituelle et, pour ainsi dire, liturgique de « mort aux vaches », c'est sous cette forme que, spontanément, il recueillit et concréta dans son oreille les paroles du délinquant. « Ah, vous avez dit mort aux vaches, ben c'est bon, suivez-moi !» Crinquebille, dans l'excès de la stupeur et de la détresse, regardait avec ses gros yeux brûlés du soleil l'agent 64, et de sa voix cassée, qui lui sortait tantôt de dessus la tête et tantôt de dessous les talons, s'écriait, les bras croisés sur sa blouse bleue, « J'ai dit, moi, oh vache, moi oh !» Cette attestation fut accueillie par les rires des employés de commerce et des petits garçons. Elle contentait le goût que toutes les foules d'hommes éprouvent pour les spectacles ignobles et violents. Mais s'étant frayé un passage à travers le cercle populaire, un vieillard très triste, vêtu de noir et coiffé d'un chapeau de haute forme, s'approcha de l'agent et lui dit, très doucement mais très fermement à voix basse, « Vous vous êtes mépris, cet homme ne vous a pas insulté. « Mêlez-vous de ce qui vous regarde !» lui répondit l'agent sans proférer de menace, car il parlait à un homme proprement mis. Le vieillard insista avec beaucoup de calme et de ténacité, et l'agent lui intima l'ordre de s'expliquer chez le commissaire. Cependant, Crinquebille s'écriait « Alors, que j'ai dit, mort aux vaches ? Oh !» Il prononçait ces paroles étonnées, quand Madame Bayard, la cordonnière, vint à lui les 4 sous dans la main. Mais déjà l'agent 64 le tenait au collet, et Madame Bayard, pensant qu'on ne devait rien à un homme conduit au poste, mit les 4 sous dans la poche de son tablier. Et, voyant tout à coup sa voiture en fourrière, sa liberté perdue, l'abîme sous ses pas, et le soleil éteint, Crinquebille murmura « Tout de même !» Devant le commissaire, le vieillard déclara que, arrêté sur son chemin par un embarras de voiture, il avait été témoin de la scène, qu'il affirmait que l'agent n'avait pas été insulté et qu'il s'était totalement mépris. Il donna ses noms et qualités, docteur David Mathieu, médecin en chef de l'hôpital Ambroise Paré, officier de la Légion d'honneur. En d'autres temps, un tel témoignage aurait suffisamment éclairé le commissaire. Mais alors, en France, les savants étaient suspects. Crinquebille, dont l'arrestation fut maintenue, passa la nuit au violon et fut transféré le matin dans le panier à salade au dépôt. La prison ne lui parut ni douloureuse ni humiliante. Elle lui parut nécessaire. Ce qui le frappa en entrant, ce fut la propreté des murs et du carrelage. Il dit « Oh,
Pour un endroit propre, c'est un endroit propre et de vrai. On mangerait par terre. Laissé seul, il voulut tirer son escabeau, mais il s'aperçut qu'il était scellé au mur. Il en exprima tout haut sa surprise. Quelle drôle d'idée, voilà une chose que j'aurais pas inventée pour sûr. S'étant assis, il tourna ses pouces et demeura dans l'étonnement. Le silence et la solitude l'accablaient. Il s'ennuyait et il pensait avec inquiétude à sa voiture mise en fourrière, encore toute chargée de choux, de carottes, de céleri, de mâches et de pissenlits. Et il se demandait anxieux, « Où qui vont étouffer ma voiture ?» Le troisième jour, il reçut la visite de son avocat, Maître Lemerle, un des plus jeunes membres du barreau de Paris, président d'une des sections de la Ligue de la Patrie française. Craquebille essaya de lui confier son affaire, ce qui ne lui était pas facile, car il n'avait pas l'habitude de la parole. Peut-être s'en serait-il tiré pourtant avec un peu d'aide, mais son avocat secouait la tête d'un air méfiant à tout ce qu'il disait, et feuilletant des papiers, murmurait « Je ne vois rien de tout cela au dossier ». Puis avec un peu de fatigue, il dit en frisant sa moustache blonde « Dans votre intérêt, il serait peut-être préférable d'avouer. Pour ma part, j'estime que votre système de dénégations absolues est une insigne maladresse. » Et dès lors, Crinquebille eut fait des aveux s'il avait su ce qu'il fallait avouer.